La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à cette première édition de l'année de la Tribune. Comment faire de 2024 la bonne année qu'on s'est souhaitée? À quel chantier est-il le plus urgent de s'attaquer dans la région, au Québec, dans le monde? C'est la réflexion à laquelle je convie jusqu'à 13h mes invités Yann McClure, Corinne Lavallée, Justin Cazavant, Lise Gauthier, Jean-François Daigle, Chantal Simon, François Lamoureux, Suzanne Lalande et Shirley St. James. Je leur parle tour à tour après la pause. À tout de suite.
Si je vous ai bien compris,
c'est bon, c'est fou, c'est pour vous.
Je suis content sur un nuage et je plane déjà. Ça se poursuit, oui, mes amis, à tous les vendredis.
On se prépare.
Oh, Seigneur.
Oreille gauche, oreille droite, testing.
One, two.
OK.
Bon, allons-y, qu'on en finisse au plus vite.
Le vendredi, dès 15h30, c'est n'importe quoi.
Tu t'appelles comment?
Stage Lacroix.
Merci.
Et la radio, alors?
CJSO. Le retour de Stage Lacroix.
C'est n'importe quoi.
Une présentation de location FGL et de meubles André Beaulieu.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, de chambres à coucher, de matelas et d'électroménagers pour répondre à chacun de vos besoins. Nos conseillers sont là pour vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Spécialisé en matière de mobilier de qualité, Meubles André Beaulieu s'impose de génération en génération depuis plus de 40 ans.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Alors, on s'est souhaité à profusion bonne année depuis 10 jours. C'est bien sympathique, mais comment, en effet, en faire une bonne année en posant quels gestes, là, personnellement et collectivement? Est-ce qu'il y a des chantiers auxquels il est plus urgent que d'autres de s'attaquer dans la région, au Québec, dans le monde? 9 personnes ont accepté d'y réfléchir avec moi. Yann McClure, Corinne Lavallée, Justin Cazavant, Lise Gauthier, Jean-François Daigle, Chantal Simon, François Lamoureux, Suzanne Lalande et Shirley St. James. Yann va briser la glace. Il en enseigne l'histoire au cégep de Sorel-Tracy. Bonjour Yann McClure.
Bonjour, bonne année à tous les auditeurs.
Le cours de l'histoire, on a chacune et chacun le pouvoir de l'influencer, n'est-ce pas? Est-ce que votre sentiment, Yann, c'est que vos élèves sont conscients de ce pouvoir qu'ils ont d'influencer le cours de l'histoire?
Je dirais que d'une certaine façon, ils contribuent à la construire en temps réel. La nouvelle génération, puis en tant que professeur d'histoire, on l'explique les tenants et aboutissants de cette trame historique qu'est la nôtre au niveau régional, au niveau national et même international.
La force du nombre, Yann, la force du nombre fait évidemment croître ce pouvoir de changer les choses. Réunis, on est bien plus fort. Est-ce qu'on le réalise suffisamment?
Je dirais que peut-être pas suffisamment à mon goût, mais très certainement, au terme de leurs études, ils le réalisent, très certainement.
Bon, écoutez, je vais vous laisser y aller, là, presque sans vous interrompre. Vous trouviez que c'était pas beaucoup, 5 minutes. Est-ce qu'il y a des chantiers auxquels il est plus urgent que d'autres de s'attaquer pour faire de 2024 une bonne année? Vous avez le crachoir.
Ben, disons qu'au niveau régional, je verrais vraiment l'intégration des nouveaux citoyens. Moi, je les vois, j'en vois dans mes classes et tout. Et puis, je crois que notre région a réussi à le faire par le passé. Et là, l'arrivée de gens de l'extérieur va faire en sorte que il va y avoir des défis devant nous, notamment en matière de logement, mais aussi d'intégration culturelle. Ça va être très intéressant de voir ça, mais aussi de s'attaquer à ce dossier-là. D'autre côté, la région se positionne quand même de façon assez intéressante au niveau de l'agroalimentaire. Donc, il faudrait poursuivre les efforts pour cultiver notre souveraineté alimentaire, je dirais ça comme ça. On a des exemples très intéressants comme les serres de la Vallière, les maraîchers du village, peut-être même avec des initiatives citoyennes, par exemple des serres collectives dans les jardins communautaires pour s'assurer une certaine forme de sécurité alimentaire aussi. Il y a aussi d'autres chantiers qui sont très intéressants pour la région, donc la relance des activités reliées au monde maritime. Je crois que dans un monde où les enjeux de sécurité politique, économique pourraient augmenter malheureusement, ben notre région, elle est placée quand même de façon assez géostratégique, je dirais ça comme ça. L'autre dossier qui pourrait être aussi très intéressant, auquel on pourrait s'attaquer, là, c'est que Sorel-Tracy devienne définitivement un pôle sportif et culturel. Donc, culture sportive de la région, puis elle doit être mise au cœur des stratégies de développement, je pense, de la ville, tant au niveau du hockey, mais aussi au du football ou d'autres sports, bien évidemment. Alors, faut attirer des jeunes, faut bonifier les sports-études, je dirais ça comme ça. Puis pour moi, la scène culturelle, ben on a une scène culturelle à Sorel-Tracy très, très, très vibrante. Alors, par exemple, on a des artistes, Anne-Marie Duluth, Guillaume Lambert, Marie-Christine Lachance, Stéphane Tellier, André Champagne, que vous connaissez bien. Donc, je crois qu'il va falloir investir là-dedans pour faire vibrer notre région là, de manière significative.
D'accord. Dossiers nationaux en une minute, ce qui sera, j'en conviens, bien trop peu. Quoi faire, à quoi travailler collectivement pour qu'au Québec, 2024 soit une bonne année?
Ben moi, je dirais qu'il faudrait lutter contre la tentation d'émuler la polarisation états-unienne. Là. Donc, on voit du populisme, du trumpisme d'une droite dure états-unienne. Puis on voit aussi une extrême gauche, je dirais, communautariste, woke, qui divise profondément. Alors, il faudrait nous préserver de cette tentation-là et de faire un peu ce qui se produit aux États-Unis. Ensuite, il faudrait préserver notre particularité aussi québécoise. Hein? C'est une culture à cheval entre l'univers autochtone et européen. On a un héritage culturel autochtone chez les Québécois qui est présent là. Il faudrait s'y reconnecter davantage, à mon avis, notamment par la langue. Et puis, bon, au niveau économique, ben on a des contextes peut-être un petit peu difficiles qui s'en viennent. Il faudrait resserrer nos liens avec nos partenaires économiques, puis développer une offre de services, peut-être, de produits reliés à des enjeux peut-être de sécurité, peut-être en matière d'aéronautique, peut-être. Donc, voilà.
Mais merci, Yann McClure. Ce fut, j'en conviens, bien trop court. J'ai le goût de vous réinviter. Je le ferai une prochaine fois. Merci, Yann.
Merci et bonne année encore à tous vos auditeurs.
Merci. On joint notre seconde invitée, Corinne Lavallée. La dernière fois qu'on lui a parlé, elle présidait l'Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy, justement. Elle étudie maintenant en administration à HEC Montréal. Merci, Corinne, d'avoir accepté mon invitation.
Merci, Sylvain, pour l'invitation.
Dites-moi d'abord, la nouvelle année, est-ce que c'est l'occasion pour vous de prendre des résolutions personnelles? Est-ce que c'est une tradition que vous faites vôtre, celle-là?
Oui, bien sûr. Chaque année, je prends toujours plusieurs résolutions pour essayer d'améliorer mon année qui s'en vient. Là.
Et vous n'avez sûrement pas échappé à la tradition de souhaiter une bonne année à vos proches, et on a dû, ça c'est un classique, vous souhaitez du succès dans vos études.
Exactement.
Alors, au-delà de ces vœux-là, un peu convenus, comment, en effet, faire de 2024 cette année qu'on se souhaite bonne? Est-ce qu'il y a des chantiers auxquels il est plus urgent que d'autres de s'attaquer?
Bien, c'est sûr que je pense qu'on a laissé 2023 avec beaucoup de choses qui se passaient, autant avec les grèves des employés du secteur public, plein d'autres choses qui... La neige qui arrivait pas aussi. Il y a beaucoup de problèmes qu'on a vus à la fin de 2023 que je pense qu'il faut pas oublier dans cette nouvelle année 2024 puis qu'on pourrait s'attaquer. Donc, selon moi, l'inflation et la crise du logement, c'est vraiment des problèmes qu'on devrait s'attarder un peu plus en 2024 puis prendre le temps de peut-être régler, ben pas totalement, mais en partie, parce que ça l'affecte beaucoup les étudiants, ça l'affecte beaucoup la population au complet. Donc ça, les conditions de travail des employés du secteur public avec toutes les grèves qu'on a eues cet automne et cet hiver, faut pas les oublier, même si on a des propositions qui s'en viennent, toujours garder ça. Et les changements climatiques aussi, parce qu'avec les feux de forêt de cet été et la neige qui a pris autant de temps à arriver cet hiver, je pense que on a des bons signes qu'on devrait faire plus attention à notre planète.
Dans la région, il y a quelque chose à vos yeux qui est plus prioritaire?
Dans la région, je pense qu'on devrait s'attarder beaucoup besoin de nos étudiants. On a un beau cégep à Sorel, on a des écoles secondaires qui vont bien, mais qui ont besoin un peu plus d'amour, selon moi, avec surtout les employés, d'après moi, qui sont débordés. Donc, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait s'attarder dans la région.
Est-ce que les jeunes sont, Corinne, en général, comment dire, fatalistes, ou est-ce qu'ils portent la conviction qu'ils peuvent influencer le cours de l'histoire?
J'ai l'impression que les jeunes ont beaucoup de volonté d'améliorer les choses. Je pense peut-être que dans la sphère politique qu'on a en ce moment, avec la montée de Québec solidaire, qui représente beaucoup les intérêts de la plus jeune génération, je pense qu'on peut avoir une lueur d'espoir. C'est sûr qu'on voit qu'il y a beaucoup de conséquences sur qui ont été portées par les actions des gens avant nous. Mais je crois qu'il y a quand même de l'espoir d'améliorer les choses. Il faut juste continuer à encourager les jeunes puis à porter attention aux enjeux qui les concernent aussi.
Votre implication à l'Association générale des étudiantes et des étudiants du cégep de Sorel-Tracy, est-ce qu'elle aura des lendemains? Est-ce qu'elle vous a fait découvrir un goût de militantisme en vous?
Mais c'est sûr que la politique et l'implication sociale, ça m'a toujours vraiment intéressée. Donc, c'est sûr qu'ici, avec mes études en administration, je continue à découvrir des nouveaux aspects qui touchent le secteur public, qui touchent un peu le fonctionnement de notre société. Puis, je pense pas que mon implication au cégep de Sorel, ça va être la dernière dans ma vie.
Ben, vous m'envoyez réjoui. Merci beaucoup, Corinne Lavallée. Et bonne année.
Bonne année à vous.
Merci. Sondons maintenant le cœur et les reins de Justin Casavant. Justin, qui est animateur en alphabétisation populaire à l'Ardoise. Bonjour, Justin.
Bonjour, Sylvain.
Toi, juste pour assouvir ma curiosité, prendre des résolutions au Nouvel An, est-ce que ça fait partie de tes traditions?
Pas vraiment. Il faut dire que on les suit pas vraiment en général. Puis au lieu de me décevoir moi-même, je préfère baisser la barre très basse, comme ça, je vais pas me décevoir éventuellement.
Très bien. Prendre collectivement une coupe de résolution pour 2024, ça pourrait, en revanche, être pas bête?
Oui, mais il y a plusieurs chantiers importants auxquels il faudrait s'attaquer. Moi, un peu comme je pense Corinne précédemment qui parlait de la crise du logement, moi c'est sûr que je pense aussi que c'est comme une grosse priorité parce que j'ai moi-même dû chercher un logement, mettons, en 2023. Et 2022-23, puis j'ai constaté que c'était les prix étaient fous, là, par exemple. T'sais, un 3,5 dans un demi-sous-sol avec des murs jaunes, puis un plancher sale, ça pouvait aller jusqu'à 800 $ par mois. Je pense que les propriétaires savent qu'il y a plus de demandes que d'offres, puis ils en profitent un petit peu pour augmenter les prix. Puis ça affecte tout le monde, mais encore plus les personnes à plus faible revenu. Par exemple, une personne sur l'aide sociale qui a un chèque mensuel de 800 $, ben, dans le fond, l'entièreté de ses revenus vont servir à payer son loyer. Puis il ne reste plus rien ensuite pour s'habiller, se nourrir, puis avoir des loisirs. Donc, si on parle d'urgence, je pense que c'est pas mal ça, l'urgence en ce moment. Ben, entre autres choses, mais surtout ça.
Alors, parlons de ces autres choses, mis à part la crise du logement. Qu'est-ce que tu identifies comme des chantiers auxquels il faut travailler, là? Dans la région, notamment, là, tu parles des logements. On est maintenant concerné aussi par cette crise-là, par la montée des prix. Mais quoi d'autre dans la région?
Dans la région, c'est sûr, là, l'intitulé de la question, c'est une urgence. Est-ce que c'est des urgences? Je ne sais pas. Mais j'aimerais ça peut-être aussi aborder la question de la revitalisation du centre-ville. Pour faire un lien avec ce que je disais précédemment, j'ai tout finalement trouvé un logement qui est au centre-ville, puis on a quand même été beaucoup affecté par les travaux et tout. On a lu aussi dans le journal qu'il y avait, par exemple, plusieurs commerces qui ont été affectés par ça. Donc, Sorel-Tracy a été un peu croulé sous les travaux, tu sais, pour faire juste traverser la rue, des fois, il fallait faire un immense détour. C'était terrible. J'en ai beaucoup souffert. Un petit peu à la blague que je dis, là, mais. Puis donc, je souhaite un centre-ville, donc, au printemps revitaliser, parce que c'est important, dans le fond, un lieu commun, tu sais, où il y a du commun. Puis en 2024, c'est important de créer du commun, parce qu'on est de plus en plus un peu enfermé dans des petites bulles, des fois. Puis un lieu où on se rassemble, où on est bien, puis un peu le cœur de la MRC, je pense que c'est... ce serait un bon chantier, ça, en 2024, de revitaliser le centre-ville. Je parlais des travaux, mais rapidement, je peux peut-être parler aussi du fait que, par exemple, il y a des commerces qui ferment, que c'est difficile, donc que ça arrive moins, puis qu'on commence à refaire du commun ensemble avec un beau centre-ville tout neuf.
L'action collective, la mobilisation populaire, c'est en perte de vitesse ou en gain de popularité? Qu'est-ce que tu observes dans ta tranche d'âge, là, particulièrement, les 30 à 40 ans? Est-ce qu'ils s'impliquent ou te paraissent plutôt individualistes?
Je dirais un peu... Je sais pas, c'est dur à dire, parce que, tu sais, il faudrait que je regarde des chiffres et tout. Moi, personnellement, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus individualiste. Mais, tu sais, je dirais c'est pas de notre faute. Parce que, tu sais, il y a aussi beaucoup de... T'sais, mettons les réseaux sociaux, les Netflix, etc. Il y a plus en plus de médias qui nous enferment un peu dans une... Je vais me répéter un petit peu, dans une bulle médiatique. C'est selon nos intérêts, c'est selon nos... puis donc, on reste un peu enfermé. Donc, j'ai l'impression que on est plus centré sur nous, mais c'est quelque chose de structurel, en fait. Là. C'est parce que on est un peu...
On est plus observateur qu'acteur?
Oui, ça aussi. On est plus observateur qu'acteur. Puis, tu sais, des fois, c'est facile de mettre un like sur une publication engagée, mais il n'y a pas un véritable engagement physique là, d'aller dans une manifestation, par exemple, ou de véritablement se déplacer puis faire une différence concrète. Il y a une sorte de... On appelle ça du slacktivisme, c'est-à-dire on est activiste, mais de façon un peu slack, là, c'est-à-dire on met un like et on est satisfait. mais il y a peut-être cet aspect-là. Donc j'aurais tendance à être pessimiste, mais voilà, je veux juste dire ça. J'ai tendance à être pessimiste, mais il n'y a rien qui ne dit pas qu'il n'y a pas une sorte d'étincelle qui va faire en sorte qu'il pourrait y avoir un réengagement.
Souhaitons-là cette étincelle. Merci beaucoup, Justin Cazavant. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir. On joint cette fois Lise Gauthier. Lise qui est conseillère au Fonds Stratégie. Oups! Est-ce qu'elle est là? Je pense que oui. Alors, Lise, qui est conseillère au Fonds Stratégie Jeunesse à la SADC Pierre de Sorel. Je vous cite les fonctions de mes invités pour vous situer dans quel univers ils œuvrent, mais ils s'expriment toutes et tous à titre personnel ce midi. Bonjour, Lise.
Oui, bonjour, Sylvain. Ça va bien?
Ça va bien. Ma seule incursion de l'entrevue dans ta vie personnelle, ce sera de te demander si tu en prends des résolutions, toi, le premier de l'an. Est-ce que c'est une tradition chez les Gauthier et les Cournoyer, ça?
Ben en fait, je fais un bilan de mon année précédente et j'essaie là de mettre la lumière sur des points qui pourraient être améliorés à tout point de vue, en fait, pour être meilleur parmi ce monde là qui est en effervescence et en grand changement.
Quand tu souhaites une bonne année au tien, tu dis quoi? Santé, bonheur, prospérité. Dans cet ordre-là, est-ce que l'ordre est bon?
Oui, l'ordre est bon, Sylvain, surtout la santé. Avec la santé, on peut tout faire. Donc, la santé est au cœur là, de mes souhaits, personnellement et auprès de mes proches et de ceux que j'aime.
Bon, abordons ça sous un angle collectif. Comment faire de 2024 une bonne année, là, toutes et tous ensemble? Commençons par la région. Il y a une priorité. Faudrait se retrousser les manches pour une situation en premier?
Ah, tout à fait, Sylvain. On est à la croisée des chemins, puis il faut vraiment prendre un virage de concertation. On est en grande phase importante de transformation. On ne reviendra plus avant la pandémie. Donc, Lavoisier disait « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Même le changement change. Donc, moi, mes souhaits, bien sûr, au niveau de l'entrepreneuriat, ça va prendre des déclencheurs, une grande concertation, surtout et intégrer le développement durable au niveau de nos investissements, qu'ils soient durables être des bougies d'allumage aussi auprès de nos entreprises et surtout faire remonter auprès des gouvernements les besoins des entreprises. Ils ont été bombardés pendant la pandémie à tous les niveaux, Sylvain, économique, climatique, technologique, la cybersécurité. On nous arrive avec la loi 25, l'accès à l'information, la protection des renseignements personnels. Ce que je souhaite, c'est que nous, comme acteurs socio-économiques, on devienne des parapluies. C'est-à-dire qu'on soit une communauté qui aide les entreprises à comprendre, à mesurer, à explorer des perspectives pour faire face aux défis, mais aussi à des occasions à saisir. Donc, pour qu'elles soient plus efficaces, on est dans des stratégies présentement de défensive, mais il va falloir, dans les prochains mois, saisir des opportunités et en être en mode offensif. Et je rajouterais même, Sylvain, plus précisément au niveau de l'acquisition et de la relève d'entreprises. On est une population vieillissante. Il y a 10 ans, j'en parlais déjà, du transfert aux générations, qu'elles soient à l'interne ou à l'externe. Présentement, il y a 37 000 entreprises québécoises qui ont l'intention de vendre actuellement. 52 % souhaitent le faire et 31 % un membre de la famille. Donc, c'est important de mettre en place avec les gouvernements des accompagnements pour que même les générations des enfants puissent acquérir avec des modalités fiscales, puissent même en agriculture acquérir des entreprises existantes. 90 % du territoire, Sylvain, est rural ici. Semi-rural, avec 30 % de la population. Donc, il faut en tenir compte aussi de l'agriculture, permettre l'accès aux terres et permettre aux générations d'acquérir des terres de plus en plus avec des petites niches bio et des produits de proximité.
Lise, je dois déjà te remercier. C'était très intéressant. Merci encore. Bonne année à toi et au tien.
Merci, Sylvain. Et n'oublions pas le tourisme, qui est la vitalité socio-économique de nos régions. Il faut mettre l'accent là-dessus aussi.
Merci, Lise.
Merci, Sylvain.
La tribune s'interrompt pour des publicités. Au retour, Jean-François Daigle, Chantal Simon et François Lamoureux.
Valérie, l'après-midi, c'est votre rendez-vous de fin de journée. Mon nom est Valérie Ferland. Ma mission, vous tirer un sourire, vous faire taper du pied et vous garder bien informé. J'ai la chance d'être accompagnée de Sylvain Rochon et de mes collaborateurs pour parler santé, lecture et vie au travail. Soyez là du lundi au jeudi dès 15h30.
Vous avez à cœur votre santé et celle de votre famille? Moi aussi. Ici David Gauthier. Dans les conseils Brunet sur les ondes de CJSO, on se pose des questions, on y répond et on vulgarise toutes sortes de situations. On prend soin de votre santé de la tête aux pieds. Du contenu informatif qui est loin d'être plate. Ça vaut la peine d'être bien renseigné? Alors, soyez à l'écoute les jeudis 17h15 pendant Valérie l'après-midi.
Les conseils Brunet. Présentation de David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet.
Délai trop long? Refus d'indemnisation? Au Québec, on a accès à de nombreux services publics, mais parfois, ça accroche. Vous pouvez porter plainte au Protecteur du citoyen si vous avez un problème avec un ministère, un organisme ou le réseau de la santé. Visitez protecteurducitoyen.qc.ca ou composez le 1-800-463-5070. Le Protecteur du citoyen, un recours gratuit et efficace pour le respect de vos droits.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Comment faire de 2024 la bonne année qu'on s'est souhaitée? À quel chantier est-il le plus urgent de s'attaquer dans la région, au Québec, dans le monde? C'est la réflexion à laquelle je convie ce midi mes invités. Je parle cette fois à Jean-François Daigle, détenteur d'une maîtrise en sociologie, d'un diplôme en service social, organisateur communautaire au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. Bonjour Jean-François.
Bonjour Sylvain.
Tout le monde souhaite une bonne année à tout le monde, mais y en a-t-il beaucoup qui estiment pouvoir agir pour influencer le cours de cette année-là, qui estime pouvoir contribuer à écrire ce nouveau chapitre, qui estime avoir une prise sur notre destin collectif. Qu'en pense le sociologue?
Ben moi, je pense que, en fait, tout le monde a une emprise, peut avoir une capacité d'agir et doit le faire à quelque part. Et quand tu nous as interpellés, en fait, tu nous as lancé une grande question. À quel chantier, collectivement, il est le plus urgent de s'attaquer dans la région, le Québec ou dans le monde? Je savais pas vraiment par où commencer. Puis rapidement, il y a un défi qui s'est imposé. C'est la transition socio-écologique. C'est-à-dire de trouver une nouvelle façon de faire pour que notre organisation économique soit plus juste, inclusive et écologiquement viable. Comme le démontre l'économiste Kate Rothwell, pour assurer l'avenir de l'humanité, il faut respecter un plafond environnemental et un plancher social. Autrement dit, nous ne pouvons pas consommer à l'infini les ressources. Cela, je crois que la très grande majorité d'entre nous l'a déjà compris et constaté. Ce qui est moins évident, c'est de constater l'importance du plancher social. Celui-ci fait référence au fait que la pauvreté et les inégalités sociales ont pour résultat d'engendrer d'importantes maladies physiques et mentales et des tensions sociales qui s'expriment en violence. Il faut avoir l'humanité, je crois, là, en ce début d'année, de reconnaître que notre système capitaliste ne fonctionne pas. Ainsi, notre défi collectif, du local au mondial, est de trouver des nouvelles façons pour que notre organisation sociale, notre économie, nos politiques favorisent le mieux-être de toutes et de tous, et ce, en cohérence avec les ressources naturelles disponibles. Nous ne pouvons plus croire que le capitalisme, même avec des ajustements fiscaux, là, permettra l'avenir de l'humanité et la justice sociale. Par exemple, ce matin, là, je lisais dans la presse qu'en 2017, un patron gagnait 197 fois le salaire moyen d'un employé au pays. En 2018, 227 fois. En 2022, 247 fois. Henry Ford, un des plus grands figures du capitalisme du début du 20e siècle, là, avait en son temps dit que le ratio acceptable était de 40 pour 1. 40 fois le salaire le plus élevé pour un, on est à 246 aujourd'hui. Ça ne veut pas de bon sens. Il faut repenser nos façons de faire. Nous pourrions, par exemple, réglementer les écarts entre les personnes les plus payées dans une entreprise, en y incluant les administrateurs, et la personne la moins payée, afin que la redistribution de la richesse se fasse mieux dans l'entreprise avec tous ceux qui ont contribué à la création de cette richesse-là. Mais ça, c'est juste un exemple. En fait, je crois profondément que c'est collectivement que nous allons trouver les meilleures solutions. Je pense que si chacun de nous, puis là, ça nous ramène à ta question de départ, chacun de nous, là, dans sa vie, on oriente notre action vers le respect et la protection de l'environnement, le respect et la protection de la dignité de toute personne, que si nous reconnaissons que les solutions là, viendront du partage de nos connaissances, des expertises de chacun et des aspirations communes que nous allons trouver ensemble, nous allons savoir opérer cette transition socio-écologique.
Je t'ai laissé aller, Jean-François, parce que j'ai eu le sentiment, dès que t'as attaqué, qu'on allait avoir droit à un vibrant plaidoyer, puis à tout un programme. Je me suis pas trompé. Merci beaucoup de ta contribution à la réflexion qu'on mène aujourd'hui.
Merci et bonne année à toi.
Merci, Jean-François. Femme d'affaires, Chantal Simon est aussi présidente de la Maison de la musique de Sorel-Tracy. C'est avec elle qu'on va maintenant parler. Bonjour Chantal.
Bonjour Sylvain, ça va bien?
Ça va très bien. Des résolutions personnelles, toi, pour 2024, est-ce que tu en as prises? Est-ce que ça fait partie de tes traditions?
Moi, honnêtement, je fais toujours une revue en début d'année de l'année précédente, donc de l'année 2023 qui vient de passer, des 12 derniers mois. Je prends le temps de penser à mes accomplissements, mes meilleures décisions, ce qui a moins bien été, les impacts négatifs, et je co-crée mon année 2024. C'est-à-dire, au 31 décembre 2024, là, je réécris mon année 24 comme si je l'avais vécue, avec plein de couleurs, plein d'émotions, le climat de travail, ma vie amoureuse, ma vie familiale. C'est un peu ça, Sylvain.
Et ce que tu fais comme individu, là, il serait sain et souhaitable de profiter du changement d'année pour le faire comme société, alors faire le bilan de la dernière année comme société, puis se dresser collectivement un plan pour la prochaine?
Oui, moi, je pense que c'est très bien de faire des bilans, de mettre ses priorités, ses objectifs à atteindre pour le 31 décembre, exemple 2024, ou d'ici les 5 prochaines années. C'est ce que je fais depuis toujours, c'est-à-dire depuis que je suis en affaires, et je mets mes priorités. Et je mets jamais plus que 4 priorités dans une année.
Qu'est-ce qu'on devrait retrouver, Chantal Simon, selon toi, sur notre liste collective là, de priorités pour 2024, sur notre liste d'actions à poser pour que 2024 soit en effet la bonne année qu'on s'est souhaitée?
Premièrement, moi, je souhaite une inclusion sociale. Ça, c'est ma priorité. Je pense qu'il faut... On a beaucoup d'enjeux sociaux hein, présentement. On a des enjeux économiques, politiques, scientifiques. C'est plein d'enjeux, mais il faut faire des priorités. Donc, j'ai entendu tantôt, j'ai écouté l'émission, l'itinérance, la crise du logement, puis le changement climatique. C'est mes 3 priorités pour moi là en ce moment. Puis je me dis, comment moi, Chantal Simon, je peux faire pour faire un changement significatif? Je me suis posé cette question-là cette année et je pense que c'est en soutenant moi, mais les gens aussi qui nous écoutent, peuvent s'impliquer, ils peuvent soutenir, peu importe l'organisme, parce que si on prend exemple l'itinérance, OK? L'itinérance est de plus en plus visible. Tu es d'accord avec moi, Sylvain?
Absolument.
Il existe, j'ai fait la lecture en début d'année, quand je te dis que je regarde ça, là, pour moi, là, c'est quoi ma priorité, mes objectifs? J'ai fait la lecture sur le modèle finlandais. Est-ce que tu as fait la lecture là-dessus?
Non, mais je vais t'écouter avec attention, là. On entend beaucoup vanter le modèle finlandais.
Le modèle finlandais, c'est en Europe, premièrement. En 87, il y avait plus de 18 000 personnes qui étaient itinérantes. OK? 20 ans plus tard, il y en a toujours d'itinérance, OK? On s'entend. Mais on est en train d'atteindre environ 3 000 itinérants sur une population de quand même 4,9 millions d'habitants.
Et qu'a-t-on fait pour ça?
Bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place, une coopération politique. Ils ont mis une stratégie qui était capable de réduire de façon significative l'itinérance. Pour y arriver, bien, ils ont pris des groupes communautaires. Donc, nous, on en a beaucoup aussi des groupes communautaires. Puis, ils les ont considérés comme des partenaires dans le processus. Et là, je peux pas te dire exactement parce que j'ai pas fait d'études approfondies, mais ça semble bien fonctionner. Je pense que on pourrait prendre le temps d'aller lire ce modèle-là. Peut-être pas celui qui nous convient à la lettre, mais peut-être en faire la lecture pour pouvoir appliquer certaines choses dans ça.
Merci beaucoup, Chantal Simon. Tu nous as donné le goût de cette lecture-là. Bonne année à toi et au tien.
Merci. C'est un plaisir. Passe une belle année à toi aussi, de la santé à profusion.
Merci, Chantal. François Lamoureux a été président du syndicat des travailleurs de Marine Industrie de 1981 à 1987 avant d'obtenir sa licence en droit de l'Université de Montréal. Il occupe depuis 2014 la présidence du comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre. Bonjour, François Lamoureux.
Et bonjour, Sylvain.
Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai senti, en te lançant cette invitation, que tes origines sorelloises, elles sont toujours aussi chères à ton cœur.
Oui, oui. Il y a beaucoup de ma famille qui habite à Sorel et ma mère qui habite également, fière de ses 93 ans encore dans la région de Sorel. Alors donc, j'y vais assez régulièrement encore.
Je débute en te posant la question avec laquelle j'ai brisé la glace avec les autres. Des résolutions personnelles, est-ce que tu en prends, toi, le premier de l'an?
Non, ce que j'essaie de faire dans la vie de tous les jours, c'est un peu appliquer les principes de bienveillance. Hein? Comment on peut aider les autres, comment on peut être une meilleure personne, nous autres même dans la vie, puis ça tous les jours et non pas une seule fois par année. Donc, cet exercice-là de bienveillance où on se dit quelquefois à l'occasion, ouais, mais peut-être j'aurais pu faire mieux, peut-être j'aurais pu être peut-être un peu plus humaniste de ce côté-là ou plus aidant. Alors, c'est dans ce sens-là que j'applique le principe de la bienveillance et en souhaitant à tous les jours et non pas une fois par année, à tous mes proches, à mes amis, la santé et souvent plein de bonheur pour eux et non pas une fois par année.
Je prends rapidement la voie là, des résolutions collectives. Y en a-t-il qui l'urgent plus que d'autres que nous prenions pour que cette année 2024, que nous nous sommes souhaités bonnes, le soit en effet?
Oui. Honnêtement, Sylvain, je te disais, moi j'en ai 3-4 là, qui peuvent s'appliquer autant pour la région de Sorel, qui peuvent s'appliquer pour le Québec, qui s'appliquent pour le Canada aussi en même temps. Mon premier point, c'est vraiment améliorer le coût de la vie des citoyens. Les citoyens en arrachent énormément. Et on espère que dans les prochains mois qui vont venir, que le directeur de la Banque du Canada va diminuer son taux de directeur, qu'on diminue un peu les taux d'intérêt, parce que avec l'inflation, le panier d'épicerie est devenu inabordable pour beaucoup, beaucoup de citoyens. J'espère que le code de conduite que M. Champagne au fédéral veut mettre de l'avant pour les épiciers puisse se mettre en branle pour avoir un meilleur contrôle des prix à l'épicerie. Sylvain, je voyais la semaine dernière, là, en Europe, on se comporte différemment de nous sur cette réglementation-là, par exemple pour le panier d'épicerie. Carrefour, qui est un grand magasin alimentaire en Europe, a décidé sur ses tablettes de ne plus mettre les produits de PepsiCo, les chips Lay's, en indiquant qu'il y a eu une trop forte augmentation de ces produits-là et on ne les met plus sur les tablettes. Alors, c'est des moyens de pression qui sont vraiment différents, mais ici, au Québec, pour le citoyen, que ce soit Sorel, le panier d'épicerie est vraiment dispendieux et le logement, plusieurs personnes avant moi en ont parlé, là, le logement, avoir un logement disponible et c'est lié aussi à toute la question de l'itinérance que la personne avant moi parlait et cette itinérance-là qu'on voyait toujours dans le coin de Montréal ou les grandes villes, mais elle est maintenant à Joliette, à Gatineau, à Sorel, à Drummondville, à Granby, dans toutes les régions, dans les régions du Québec. Donc, il faut aider ces personnes-là avec des maisons de transition, essayer de les accompagner. Il faut avoir des ressources pour accompagner ces personnes-là. Donc, la question du coût de la vie, pour moi, est vraiment un essentiel à améliorer pour 2024 et du plan économique et de la bienveillance. Le deuxième volet qui interpelle, à mon avis, aussi un peu tout le monde et qui est devenu intolérable, c'est la violence qui est faite aux femmes, la violence conjugale, la violence faite aux enfants. Les DPJ sont remplis à pleine capacité des enfants qui sont maltraités. Alors, il y a vraiment une zone, là, une ligne que nous sommes en train de franchir de ce côté-là. Et il faut vraiment qu'on puisse travailler en amont pour réduire cette violence-là qui est très, très présente. Autant que la violence verbale est présente au niveau de nos réseaux sociaux, c'est terrible, terrible. La violence verbale qui s'exerce, l'intimidation, la menace, le harcèlement. Donc, il faut contrôler en amont beaucoup plus ces comportements-là.
Ton troisième point, François, pour que tu aies le temps de l'énoncer, ton troisième point?
C'est vraiment, ça m'inquiète beaucoup, c'est le droit du public à une information de qualité. Je trouve que la démocratie est en jeu, et qu'elle soit régionale, nationale. Lorsqu'on voit l'ensemble des médias régionaux, des stations de radio, on a vu TVA, Radio-Canada, donc cette qualité-là de l'information se retrouve sur les réseaux sociaux sans contrôle, et c'est éminemment dangereux pour une démocratie. À quel endroit le citoyen peut aller s'abreuver pour avoir une information de qualité? Et lorsqu'on pense aux prochaines élections aux États-Unis, on peut frémir d'avance oui. sur ce qui va se dire sur les
réseaux. Tu as bien raison. François, je dois te remercier. Merci beaucoup et bonne année à toi.
Merci beaucoup, Sylvain, de l'invitation.
Merci. Après la pause, Suzanne Lalande et Shirley St. James concluent cette émission.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, de chambres à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à chacun de vos besoins. Nos conseillers sont là pour vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Spécialisé en matière de mobilier de qualité, Meubles André Beaulieu s'impose de génération en génération depuis plus de 40 ans.
Yacht, c'est matin. CGSO.
Salut, c'est Alex. Content de vous retrouver demain dès 6h avec Stéphanie Demers, professionnelle de l'éducation, qui va nous parler du retour de nos enfants à l'école, de nos jeunes, la réalité pour les parents. Julie Snyder, elle-même maman, mais également femme de télé, avec un nouveau projet qui va nous en parler 8h20 et défi 21 jours de gratitude.
Yatsé Matin, une présentation Meubles RD. La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
On s'est souhaité à profusion bonne année depuis 10 jours. C'est bien sympathique, mais comment en effet faire de 2024 qu'une bonne année? Cette émission se conclut par le regard de deux femmes. La première que nous joignons à Montréal est une spécialiste en communication. Elle a été conseillère municipale à Massuville, directrice des communications au cabinet d'Hélène Zakaïb. Elle est très préoccupée par les questions environnementales. Je suis essoufflé. C'est une présentation très condensée que je viens de faire d'elle. Suzanne Lalande, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Suzanne. Avant de parler du Québec et du monde, parlons de vous et de votre disposition à, ou pas, à prendre des résolutions. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous prenez des résolutions au passage d'une année à une autre?
J'en prends une de ne pas faire de résolution. J'ai jamais vraiment pris de résolution. J'en prends à d'autres moments de l'année, mais pour moi, les résolutions du nouvel an, non. Ça ne m'a jamais...
D'accord. Ben je passe de vous, personnellement, au Québec et au monde. Est-ce qu'il y a des résolutions qu'on devrait, par ailleurs, prendre collectivement pour s'assurer que 2024 soit une bonne année? Au Québec, est-ce qu'il y a des chantiers qui vous apparaissent plus urgents que d'autres?
Ben, au départ, je dirais que j'ai eu un malaise cette année à souhaiter bonne année. Parce que, ça aurait pu être d'autres années, mais ça a été vraiment une prise de conscience. Je me suis dit, mais c'est quoi cette formule-là? Je ne crois pas, très honnêtement, et ça a l'air pessimiste, mais je pense que c'est lucide, je ne crois pas que l'année 2024 va être bien, va être mieux au Québec, dans le monde. Les problèmes sont, à mon avis, trop important. Il y a une vague de fond là, qui est drainée pas mal par la crise climatique qui est en partie, pas seulement, mais en grande partie derrière les guerres, les conflits, les réfugiés qui sont refusés dans les pays. Il y a comme les systèmes, les deux systèmes communisme et capitaliste qui sont arrivés comme au bout. Pour moi, on est à un point de bascule. Là, puis on en prend conscience maintenant. C'est une crise qui a jamais eu lieu, à mon avis. Alors, à cause de la crise climatique qui amplifie tout le reste et qui cause certains éléments. Alors, pour moi, ça me semblait impertinent, voire indécent, de souhaiter bonne année.
Alors, j'ai l'impression, puis là, je vous écoute, là, puis je vous ai lu sur Facebook, sur l'avenir de la planète, ou en tout cas de notre espèce sur la planète, vous ne faites pas partie du club optimiste, là, vous, là.
Non, pas du tout. Par contre, je suis pas non plus inactive. Je pense pas qu'on doit ne rien faire, même si les prévisions sont plutôt noires. Moi, je pense, en tout cas, si j'ai des souhaits à faire pour cette année collectif, c'est d'une part de. Je trouve qu'actuellement, on vit dans un monde où les droits individuels, on parle de droits individuels beaucoup et de responsabilité collective. On demande à nos gouvernements, à l'État, à tout le monde de faire plus, mais on a l'impression qu'on n'a pas de droits individuels. Moi, j'aimerais basculer vers les responsabilités individuelles versus les droits collectifs. La part de responsabilité individuelle qu'on a par rapport aux droits collectifs. Et je pense que c'est ce qu'on doit se souhaiter. Je pense que ça commence par l'information. C'est difficile parce que c'est tellement dur actuellement qu'ils développent l'éco-anxiété. Mon choix, moi, c'est, contrairement à Yvon Deschamps, Je ne veux pas voir, je veux savoir. Fait que je ne vois pas à la télé où les images sont intolérables, mais je me fie sur la radio, bien sûr, et sur les textes écrits pour prendre conscience de la situation du monde. Je pense qu'on peut faire des choses pour les drames mondiaux. On peut donner de l'argent à Médecins sans frontières, à Amnesty International, la Croix-Rouge. On peut manifester, signer des pétitions. C'est mineur, mais ça a quand même un certain rôle. Sur le plan de la crise climatique, c'est pas compliqué, réduire notre consommation.
Vous avez fait des choix qui s'accordent avec vos convictions. Vous n'avez, par exemple, plus d'auto?
Non. C'est sûr que j'avais envie de venir à Montréal. Là. Je dis que c'est pas pour tout le monde nécessairement, mais j'avais le goût de revenir à Montréal. Mais ça faisait partie de mon choix de revenir à Montréal pour ne plus avoir d'auto et ne voyager qu'à pied ou en transport en commun. Mais ça fait longtemps que j'ai choisi la simplicité volontaire. J'ai réduit beaucoup, beaucoup ma consommation de vêtements, d'objets. Et je pense que si on arrête, on a beau dire on n'a pas... C'est petit ce qu'on fait, mais si tout le monde réduit sa consommation, bien, ça va réduire la surconsommation et ça va réduire la surproduction et ça va aider la crise climatique.
C'est la grâce que l'on se souhaite. Merci beaucoup, Suzanne Lalande.
Ça m'a fait plaisir.
Merci, Suzanne. À la prochaine, oui. On conclut cette émission en compagnie de Shirley St. James, qui est retraitée de l'enseignement. Elle a partagé sur 3 décennies sa passion pour la psychologie à des centaines d'étudiantes et d'étudiants du cégep de Sorel-Tracy. Bonjour, Shirley.
Bonjour Sylvain. Bonne année.
Oui, à vous pareillement. La psychologie, c'est la connaissance des sentiments, des idées, des comportements, des manières d'agir là, qui caractérisent un individu ou un groupe.
Ben aussi.
Oui. Est-ce qu'il y a des comportements et des manières d'agir plus susceptibles que d'autres de paver la voie à une bonne année 2024, vous pensez?
J'ai écouté tous les intervenants qui sont passés avant moi. Je trouvais que c'est l'occasion que tu me donnes de finir l'émission va attacher tous les fils. Parce que plusieurs ont déploré la violence, le manque de préoccupation pour les autres. Et j'ai envie de partager le fait que je suis allée au Japon cet automne. Et là-bas, la mentalité, on pourrait vraiment s'inspirer de cette mentalité où le « nous » est plus important que le « je ». Alors, les gens sont vraiment, dans leur comportement de tous les jours, très préoccupés à faire le bien, à faire du bien. Ils sont respectueux de l'environnement. Il n'y a pas le moindre petit papier par terre dans les rues, même de très grandes villes comme Tokyo. Tout est toujours très propre. Les gens sont bienveillants, respectueux les uns avec les autres, toujours gentils. Et ce qui est toujours très important pour eux, c'est d'être fiers d'eux-mêmes, d'être fiers de leur comportement et que leur famille soit fière d'eux. Alors, l'honneur est vraiment au centre de ce comportement de respect toujours les uns envers les autres, toujours des paroles de gentillesse. Et je pense que plusieurs intervenants en ont parlé, entre autres Justin, Jean-François, François en ont parlé beaucoup de cette pénurie de bonté les uns envers les autres.
Alors, bienveillance entre nous, prépondérance du « nous » sur le « je », souci des autres et de la communauté. Est-ce que vous voyez poindre au Québec ne serait-ce que le soupçon d'une volonté d'aller dans cette direction-là? Il me semble que ces dernières années, on a viré plus à droite qu'à gauche. Le balancier ira dans l'autre direction, vous êtes confiante?
Je sais pas, ça va dépendre de nous, parce que je vois en même temps ce besoin de douceur, particulièrement chez les aînés, qui voudraient avoir plus de douceur, les enfants aussi. Tout ce qui est intimidation et tout ça, c'est le contraire de la douceur. Tout le monde, individuellement, aurait besoin de douceur, mais est-ce que individuellement on donne de la douceur aux autres? Moi, je déplore le fait que certaines personnes vont cracher leur venin sur les réseaux sociaux, diminuer, mépriser d'autres personnes qui essaient de bien faire. Et ça, c'est de la méchanceté pure. C'est tout à fait inutile. Socialement, on n'avance pas avec la méchanceté.
Merci beaucoup, Shirley Saint-James. Une belle façon de conclure, en effet, cette émission. Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Merci à l'ensemble de mes invités, Yann McClure, Corinne Lavallée, Justin Cazavant, Lise Gauthier, Jean-François Daigle, Chantal Simon, François Damoureux, Suzanne Lalande et Shirley Saint-James. C'est drôle parce qu'elle a parlé de Facebook et c'est là que je veux vous amener la semaine prochaine. Est-ce que ça vous intéresse encore, Facebook? Qu'est-ce que vous y découvrez, là, depuis quelques mois que les articles des médias sont complètement absents? On va parler de ça la semaine prochaine. Alors, à la semaine prochaine pour une autre édition de La Tribune. Et merci à Laurent Cournoyer au standard téléphonique.